بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزاك الله خير رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بشفاء الإسلام Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de reprendre après une longue interruption, donc après le mois de Ramadan, après la période de vacances également. Alhamdulillah, nous pouvons reprendre les durous, les cours de tafsir. Et c'est là une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal que de pouvoir s'asseoir quelques instants après une prière accomplie en congrégation et d'écouter l'explication. Le sharh, le ma'na de Kalamullah, parce que ça fait partie des devoirs, des obligations du croyant dans sa relation avec les textes, dans notre relation avec les textes, avec le wahi min Allah, avec la, ce qu'Allah Rabbul Izza nous a révélé par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, révélation de le prophète alayhi salatu wa salam. L'objectif est que chaque croyant puisse s'accrocher aux paroles d'Allah Azza wa Jal pour rester dans le droit chemin, pour trouver la façon d'accomplir ses bonnes actions, pour trouver la voie qu'il doit suivre, l'objectif de sa création, l'objectif de sa vie. Avant même de parler des bonnes actions, que chaque être humain comprenne pourquoi il a été créé et quel est notre rôle, quel est notre devoir dans ce dunya. Premièrement, qu'on arrive à recadrer le point initial et le point de chute, qui est le retour auprès d'Allah Azza wa Jal, et comment cette étape cruciale doit se dérouler. Et prendre conscience que le déroulement de cette étape, bi'idnillah, dépendra de la façon qu'on a fait la relation, qu'on a relié le point de départ au point de chute. C'est-à-dire la façon que je vais mener ma vie, la lecture de ma vie, mes décisions, ma conception du dunya, de ce monde, ma conception du akhira, et la fusion entre ma conception de ce monde et ma compréhension du akhira, la fusion de ces deux concepts vont aboutir sur des choix, des décisions. Les décisions, c'est est-ce que je choisis le droit chemin ou alors je choisis le mauvais chemin. Le mauvais chemin qui n'est pas uniquement le chemin de Shaitan. Parce qu'il serait un peu réducteur que de dire on est dans le péché parce que Shaitan est là. Ou alors on est dans le péché parce que les ennemis de l'islam sont partout. On est dans le péché parce qu'il y a plein de gens qui essaient de nous perturber pour qu'on quitte la religion. Il ne faut pas toujours chercher les ennemis à l'extérieur, mais voir également à quel moment je prends la décision, moi Ibrahim, moi Ahmad, Idriss, Abdallah, quand je prends la décision de quitter le droit chemin et de suivre mon nafs, mon hawa, mes pulsions, ce que j'ai envie de faire. C'est à ce moment-là que je me dévie du droit chemin. Et quand est-ce que je me dévie du droit chemin? C'est quand je n'ai pas su faire la relation correcte entre ma conception du dunya, la lecture des faits de ce dunya, et ma compréhension du akhira. Quand il y a un déséquilibre, quand ça ne forme pas un vrai angle droit, c'est là qu'on va dans tous les sens. Quand il y a un angle droit, je comprends comment marche le dunya. Je connais que le dunya de ce bas monde, yani, c'est de toute façon, c'est une prison pour le croyant. Wa jannatul lil akmil lil kafir, mais un paradis pour celui qui n'a pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah de son cœur. Ça, c'est ma lecture du dunya, ma compréhension. À partir du moment où j'ai une lecture correcte du dunya, je ne tomberai pas dans les pièges de ce dunya. Je ne vais pas sombrer dans les fitna. Et comment est-ce que je vais avoir une lecture correcte de ce dunya? C'est en m'appuyant sur les textes. Quran wa sunna. C'est pour ça que pour comprendre le but de ma création, quel est le but de notre création? Quel est le verset qui recadre, qui nous rappelle le but de la création? Wama illa li ya'budun. Wama khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Cheikh Ali, faites-nous la traduction. Notre élève préféré, de quoi d'arabe?
Nous avons créé l'homme et les djinns pour mon adoration.
Dans ce verset, Allah Rabbul Izzah rappelle qu'il a créé les ins, les êtres humains, et les djinns uniquement pour le ibad, pour faire son adoration. Ça, c'est l'objectif de notre vie. Maintenant, Et là, on voit que, subhanallah, tout se complète dans la religion. Et on comprend également qu'il n'est pas suffisant d'ouvrir un site, une fenêtre d'un site internet, ou d'ouvrir un livre à la maison pour se dire que je comprends la religion. Là, wallah. La religion s'apprend dans le Coran, dans le tafsir, dans les traductions, dans les Riyadus Salihin, dans les livres, dans les kutub, à travers certains sites, si on connaît qui en est l'auteur, mais également auprès des ulama. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Comme les sahaba, Ridwanullahi alayhi majma'in, avait appris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'une personne va dire, va lire, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, et prendre conscience qu'on a été créé pour faire l'adoration d'Allah azza wa jal. Donc, il comprend qu'il faut adorer Allah. Mais le sens du ibad, quel est le sens du ibad? Comment le ulama al-aqida définit ce ibad? Il y a deux thèmes: at-tadhallul wal khudu', la soumission totale au Seigneur des mondes. La soumission totale, c'est le sens du mot muslim, celui qui fait al-istislamu lillah, celui qui se soumet à Allah, qui reconnaît qu'Allah Rabbul Izzah est le Rabb, le pourvoyeur, le Khaliq, le Raziq, et que nous devons de nous soumettre à lui. Donc la personne qui n'a pas réalisé le sens plus complet, shamil, du mot ibadah, va se dire que le ibadah, c'est venir aux cinq salats. Le ibadah, c'est jeûner quand les musulmans jeûnent et faire le Eid quand les musulmans font le Eid. Le ibadah, c'est aller une fois à la Mecque, c'est lire le Coran, ça c'est le sens de ibadah. Maintenant, ce que cette personne va peut-être louper, c'est que quand on parle de ibadah, c'est se rapprocher d'Allah par le biais de l'accomplissement des bonnes actions, mais c'est également rester éloigné de ce qui est haram. Donc il va lire, on est écrit que pour faire l'adoration d'Allah, il va faire l'ibadah, mais il ne va pas réaliser qu'il faut freiner quand notre hawa, notre nafs nous pousse vers le péché. D'où l'importance de compléter nos lectures par les hadiths, par les textes prophétiques. Autre problématique, celui qui a compris qu'il ne faut pas faire péché. Mais il va voir qu'il y a des gens qui se la coulent douce. Il y a des gens qui n'ont pas la foi et qui réussissent tout ce qu'ils veulent. Ils ont de l'argent, ils ont, alhamdoulilah, ils ont plein de ni'ma. Moi, je suis croyant, je baisse le regard, je fais ce qu'il faut, je ne fais pas ce qu'il ne faut pas, mais j'ai rien du tout. Je suis toujours smicard, je ne m'en sors pas, j'ai du mal à trouver une épouse vertueuse, les choses n'avancent pas. Et du coup, il y a peut-être des petits doutes qui s'installent. Il y a peut-être des incompréhensions. Il y a peut-être des fois où on se pose des questions, mais réellement, est-ce qu'Allah nous aime? A'udhu billah. Est-ce que ces gens-là, est-ce que plutôt, ben, le fait qu'ils aient tout ça, est-ce que ça prouve pas que ben Allah leur a accordé le risque des waswasa, des insufflations? Et là, il faut recadrer par le texte prophétique que ya'akhi, de toute façon, tout ce qu'ils ont là, c'est leur part. C'est ce qu'Allah Rabbul Izzah leur a prédestiné. Ce sont les ni'mas qui font partie de la rahma d'Allah, Rahman Rahim. Cette rahma qui englobe toute créature d'Allah, même ceux qui ne se prosternent pas devant lui. Cette rahma, cette clémence de notre Seigneur qui va, mashallah, englober les gens qui n'ont pas la foi, ben c'est pour ça qu'ils ont des bienfaits. Tu veux te mesurer à eux? Mais eux, le jour de Qiyama, l'autre rahma d'Allah, Rahim, qui en termes de chiffres, de pourcentage, ça correspond à 99% de rahma. Alors que 1% de la rahma d'Allah, elle descend sur le dunya. Et les 99 autres pourcents de rahma d'Allah, elle est pour qui? Ibrahim, elle est pour les ahl al-iman, ahl al-tawhid, ceux qui avaient la ilaha illallah de leur cœur. Et cette rahma-là, elle va se voir, elle va se manifester, où ça? Le jour de Qiyam, dans l'au-delà. Alors, est-ce que tu veux rivaliser maintenant? Est-ce que tu veux rivaliser avec celui qui va en boîte de nuit, celui qui boit, celui qui a une copine toutes les semaines, celui qui, quand il a besoin d'acheter quelque chose, il va à la banque, il fait un prêt avec intérêt, un taux à 5% ou à 1% ou à 0,2%, wallah, ça n'a aucune différence. Et donc, il peut avoir ce qu'il veut. Il tient la bagnole qu'il veut, il a la maison avec piscine, il a tout ça. Et toi, tu es toujours de l'HLM de Vauban ou je ne sais pas quel quartier, avec tout le respect que j'ai pour tous les quartiers. Et tu te dis que, ben voilà, moi aussi j'aimerais. Yahri, ça c'est son Jannah. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu échangerais ces bienfaits-là avec ce qu'Allah Azza wa Jal a réservé pour le croyant au jour de Qiyam? La wallah. L'homme intelligent comprend immédiatement. C'est pour ça que je dis qu'en s'appuyant sur Qur'an plus Sunnah, on comprend déjà le but de notre création. On comprend, on a une lecture claire des choses. Ma conception du dunya, ma compréhension du akhira. Les deux doivent être carré, ça fait un angle droit et tu marches droit dans tes pompes, comme on dit. Tu marches droit, tu sais exactement. Il t'arrive un problème, tu sais que c'est pas un malheur. Tu sais que c'est pas la poisse, tu sais que tu n'es pas malchanceux ou c'est pas qu'Allah t'a abandonné ou t'a oublié. Là, wallah, c'est qu'Allah t'éprouve. Ce que les kuffars, il y a des gens qui veulent même plus qu'on dise kuffar. Alors il faut retrouver des termes. Ce que les personnes qui n'ont pas la foi disent, ils qualifient de malheur. D'accord? Nous on les qualifie de ibtila. Épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. Et du coup, notre compréhension du dunya, elle est tout à fait différente. La même épreuve qui touche celui qui n'a pas la foi, il va faire une dépression, il va peut-être même se suicider parce que ce qui le touche c'est accablant. Le croyant, lui, il s'en remet à Allah Azza wa Jal. On avait expliqué, je répète parfois les mêmes choses, mais c'est un rappel pour moi en premier et pour nous tous. Dans le Shard Riyad al-Salihin, Ibn Uthaymin, rahimahullah, il avait dit une parole qui est ajib. Il a cité les quatre maratib, les quatre degrés de la personne qui fait sabr, qui fait preuve de patience, c'est-à-dire patience face à l'épreuve. Vous savez qu'il y a trois catégories de sabr, mais on parle de sabr ind al-bala, de patience face à l'épreuve. Il avait cité celui qui, bien sûr, on ne parle même pas de celui qui n'accepte pas l'épreuve, c'est-à-dire on parle de cas de réaction du croyant, du bon musulman, celui que lorsqu'il est éprouvé par quelque chose, il dit « Ah non, c'est pas juste et tout ». Bon là c'est une réaction qui ne nous concerne même pas. Il y a celui qui subit, qui accepte, qui ne grogne pas, qui ne souhaite pas que, qui ne se demande pas pourquoi c'est pas lui, pourquoi moi, d'accord? Il accepte, mais il aurait tellement souhaité que ça tombe sur quelqu'un d'autre. Et intérieurement, il n'est pas content de cette épreuve. Il cite les quatre catégories, il est possible que j'en ai zappé un. Il cite ensuite celui qui, lorsqu'il est éprouvé, réellement, il fait preuve de rida, de contentement. Il accepte la décision d'Allah Azza wa Jal et il ne se pose même pas la question pourquoi il sait que si Allah m'a éprouvé, c'est qu'Allah m'aime. Donc je ne fais pas de sabre. Et il y a celui qui, lorsqu'il est éprouvé, si quelqu'un se rappelle, Yahmadullah, il remercie Allah. Il lève les mains et il remercie son Créateur de l'avoir envoyé cette épreuve. Parce qu'il sait que par l'intermédiaire des épreuves, Allah va élever son rang, son grade. Allah Rabbul Izza va lui accorder des hasanat, des récompenses. Et Allah va lui enlever des péchés. Pour lui, l'épreuve c'est un cadeau. Pour celui qui est à côté de lui, qui n'a pas la ilaha illallah dans son cœur, c'est une calamité. Je vous ai expliqué, je vous ai raconté l'histoire de cette personne qui était partie voir un, ça se passait en Arabie Saoudite, je vous ai dit ça ici, partie voir un médecin, cancérologue. Et le médecin lui annonce que voilà, c'est une tumeur qui est maligne, donc elle n'est pas bête, qui est maligne, donc c'est un vrai problème. Et donc c'est un cancer. Nasallallahu alayhi wa sallam ata wa al-afiyah. Personne ne doit souhaiter l'épreuve. Personne ne doit souhaiter l'ibtila. Il annonce ça à ce musulman, il croit que la personne va s'effondrer, ainsi de suite. Personne dit khalas. Alhamdulillah. Il ne comprend pas, mais il a un grain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je viens d'annoncer que ta vie est foutue, Yahri. Que tu vas devoir faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Tu vas perdre tes facultés, tu vas te retrouver dans un état pitoyable, peut-être même que tu vas mourir, tu vas perdre ta femme, tes enfants, tu ne vas plus pouvoir travailler. Et il est content. Soit il ne comprend pas c'est quoi un cancer. Il croit que cancer c'est comme une migraine ou autre chose. Ou alors il est complètement dépassé. Et la personne dit que si c'est Allah qui m'a éprouvé, alhamdulillah, c'est l'épreuve qui vient d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on voulait dire en parlant de compréhension de ce dunya. Le croyant qui comprend ce dunya, rien ne l'affecte, rien ne le touche, rien ne l'affaiblit. Au contraire, tout le rapproche d'Allah, Rabbul Izza. Quand le prophète, alayhi salatu wa salam, dit « Ajaban li amri al-mu'min » Incroyable la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive, il y a un khair. Quand Allah lui donne un bienfait, « Shakar Allah, fa kana khair Allah » Il remercie Allah et il y a un bien pour lui. Remercier, c'est faire preuve de gratitude et c'est source de récompense. Lorsqu'Allah l'éprouve, on festait de l'autre sens. Lorsqu'Allah l'éprouve, sabar, fakana khair Allah. Il fait preuve de patience, il y a un bien pour lui. Être patient, c'est une ibada. Allah te rétribue. Et ensuite, là, le prophète dit, ce qui cette fois-ci étonne, quand Allah lui accorde un bienfait, yashkurullah. il remercie Allah et c'est une source de récompense. C'est-à-dire, ce mu'min qui a la lumière du Coran et de la Sunna, pas de la façon qu'on veut bien comprendre les choses, à la manière du Coran, en puisant sa compréhension du dunya par les textes prophétiques, par la parole d'Allah, par les textes prophétiques, il a une compréhension réelle de ce monde. Parce qu'il aura la compréhension que le Seigneur des mondes a révélée. Ce n'est pas la compréhension de tel économiste, de tel philosophe, de tel écrivain ou de tel homme de lettres ou de tel penseur qui ne sont que des makhlouqas, des créatures d'Allah. Il va comprendre le dunya comme Allah Azza wa Jal veut qu'on comprenne le dunya. Dites-moi, qui a révélé au prophète alayhi salatu wa salam que ad-dunya sijnu lil mu'min wa jannatu lil kafir? C'est Allah Rabbul Izzah qui met dans le cœur du prophète pour prononcer ces paroles. Qui est-ce qui a révélé au prophète alayhi salatu wa salam pour qu'il dise que ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal fa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi jusqu'à la fin du hadith, que les gens les plus éprouvés ce sont les prophètes, ensuite ceux qui sont les plus proches d'eux. Allah éprouve quelqu'un en fonction de sa foi, plus tu as la foi plus tu es éprouvé. Quand Allah t'éprouve par la maladie, c'est comme tu prends une branche en automne et tu secoues. Vous avez déjà vu l'automne ici? Dites pas oui, il n'y a pas d'automne ici. Le frère de métropole connaît c'est quoi l'automne. Tu secoues la branche et les feuilles qui tombent. Et de la même façon, par exemple, il a vu des feuilles tomber d'un arbre, il dit que c'est comme ça. Vous voyez, oh sahaba, quand quelqu'un est éprouvé par la maladie, ses péchés tombent comme ses feuilles tombent de cette branche. Mais qui c'est qui a révélé ça à cet instant, parce que c'est le Seigneur des mondes qui a mis dans son cœur de dire ça par ses paroles. C'est ce qu'on appelle un hadith. Wa ma yantiqu anil hawa. Ne parle pas, il ne dit pas ce qu'il a envie de dire. In huwa illa wahyun yuha. C'est là la révélation d'Allah Azza wa Jal. C'est le Seigneur des mondes qui demande au prophète d'expliquer aux sahaba c'est quoi le dunya. C'est quoi ce dunya de lequel nous vivons? C'est quoi ce monde dans lequel il y a tellement d'injustices? Comprenez que s'il y a un déséquilibre, s'il y a des injustices, de toute façon, ce n'est pas un monde dans lequel la justice d'Allah règne. Parce que ce monde est là, et le Jannah pour les kafirs. Et le jour où il y aura justice, c'est Yawm ad-Din, Malik Yawm ad-Din, le jour de la rétribution, où il y a Malik ou Malik, le maître, celui qui commande. Alors que de ce dunya, Al-Mulk, Allah Rabbul Izzah l'a accordé aux Salih et aux Zalim. Il y a des gens pieux qui gouvernent en fonction du Coran et la Sunna. Il y en a d'autres qui font comme ils veulent et qui prennent des décisions injustes. C'est-à-dire que de ce dunya, l'oppresseur également va régner. Et on voit de nos jours, ça a toujours existé. Ashab al-Ukhdoud, on s'était étalé combien de temps là-dessus? Le plus bel exemple. Mais le jour de Qiyama, pourquoi est-ce qu'on précise Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm ad-Din? Parce que ce jour-là, il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui décrète. Il n'y a personne qui juge, si ce n'est le Seigneur des mondes. Tu subis une injustice, tu dois de toute façon comprendre comment fonctionne ce dunya et te projeter sur le Akhira. Ton angle est bien droit, khala, ça te propulse direct vers le Akhira. Tu comprends en fonction de wahi. Et ce wahi, deuxième point, wahi min Allah, et les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam nous donnent les directives pour comprendre comment accomplir les bonnes actions. J'ai compris quel est le but de ma vie, comment je dois orienter ma vie. Maintenant, je dois comprendre comment faire les bonnes actions. Ce sera en fonction des ordres d'Allah et des ordres de notre prophète alayhi salatu wa salam. Et ces wahyain, ces deux wahi, ces deux révélations, nous donne la compréhension également du concept, de la notion de haram, la notion d'interdit. Il y a des gens qui ont, mashallah, alhamdulillah, une foi remarquable, qui accomplissent de bonnes œuvres, qui sont réguliers de leur salat, et qui iront même plus loin, qiyamul layl, tahajjud, lecture du Coran, alhamdulillah, pas mal de choses. Je connais des dames de ce cas-là, qui, alhamdulillah, méritent le respect parce qu'elles font peut-être des actions que nous ne accomplissons pas. Mais quand on parle à ces dames-là de la façon de se couvrir, l'éthique de la musulmane en termes de pudeur, elles disent que oui, mais il faut bien nous travailler, il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on gagne notre vie. Ou alors, s'il y a un mariage, il y aura la coiffure, le gel, le lac, le maquillage, on va dire la peinture, et ainsi de suite. Il y aura tout ça, ikhtilat, homme-femme et tout, les heures de salat qui passent, Zohra, Asr, Maghrib, parce que le brushing a coûté 400 euros, d'accord? Donc on peut pas, le maquillage c'est 50 euros la paupière droite, 59 la paupière gauche, les lèvres, le gloss et tout, je vaux 1200 euros ce soir, je peux pas faire le tahara, le wudu, c'est pas possible. Yani, conception décalée des choses. Dire que c'est pas une conception, une compréhension chamil complète. C'est une compréhension juz'i, à peu près. Une compréhension, quand c'est bien, quand c'est facile, je fais. Même quand c'est pas facile, je fais des efforts. Mais ne me demandez pas de faire des concessions sur des choses qui font partie de ma conception du dunya. Ma conception du travail, c'est que je dois travailler. Sans regarder les conditions, est-ce que je suis dans le licite ou je suis dans l'illicite. C'est-à-dire que ma compréhension du dunya est biaisée. Ma compréhension du akhira, elle est parfois bonne, parce que je fais des bonnes œuvres, mais parfois pas bonne, parce que j'arrive, par exemple, c'est un cas qui m'a été cité par, mashallah, pas mal, un savant, pour qui j'ai énormément de muhabba. Il me dit que, tu n'imagines pas le nombre de femmes qui sont en train de demander haut et fort que l'héritage doit être égal homme et femme. Et qu'il faut revoir la loi du Coran. Vous savez que c'est des paroles de kufr, ça. Des paroles de mécréance. D'accord, on va resituer le contexte, les dépenses et tout. Mais qu'une personne intègre le fait et proclame le fait que une loi ou alors une décision humaine est plus juste que la loi d'Allah Rabbul Izzah, c'est quelque chose de grave. C'est-à-dire que ça, c'est mon dunya, touche pas. Mon argent, touche pas. Mon travail, touche pas. Le dîn, je vais le faire, hein, Ramadan, sadaqa, je vais faire plein de choses. Mais il ne faut pas que ça bouscule mes petites habitudes. Il ne faut pas que ça bouscule mon dunya. Ça, c'est une preuve que ta conception du dunya, elle n'est pas comme il faut. Elle est biaisée. Et ta conception du akhira, elle est parfois bonne, mais parfois elle est biaisée. Tu t'enfonces. Tu ne vas pas vers l'objectif qui est une compréhension saine qui te mène vers Allah, Azza wa Jal. Tout ça, on le puise par le biais du Coran. Et comment est-ce qu'une personne éviterait ce genre d'erreur? Ça, c'est des cas d'école, ça. Ça, c'est des cas de la société. On constate beaucoup d'incohérences entre ceux qui pratiquent, mais qui pratiquent de la façon qu'ils veulent bien comprendre, sans faire des concessions sur ce qui est haram, et ainsi de suite. Je donnais le cas, je sais pas si c'était ici ou à Montreuil, le cas de quelqu'un qui sort de la salat al-fajr, en jama'a, en congrégation, il va acheter le pain à la boulangerie, et la caissière, bonjour, qui a ri, tu sors de faire la salat. Je me demande même si tu n'avais pas fait la bise ou autre chose, enfin, peut-être que j'exagère, mais tu sors, tu as été faire la salat de fajr, badri, très tôt, congrégation, et pour cette personne, ça c'est une bonne action, je rejoins, mais pour cette personne, il n'y a aucun mal. On est amis, je ne rejoins pas. Compréhension, décaler des choses. Et comment éviter ces cas d'école typiques, des erreurs, en fonction des sociétés, des époques? Shaitan va t'avoir de différentes façons. De différentes façons, de différentes manières. Comment éviter ces pièges de Shaitan? En se raccrochant à Kalamullah, Kalamur Rasul. Wa'tasimu bi habl al-i'tisam. C'est s'accrocher, ne pas lâcher. Voilà, tafarraqou, tout en restant groupé, tout en restant uni. Chers frères, quand on prend de la distance avec le Coran, on prend de la distance avec le dîn, la religion. Et une umma qui pense trouver le droit chemin en isolant le Coran, en faisant leur chemin sans se rattacher à la parole d'Allah, la parole du prophète alayhi salatu wa salam, ils risquent à un moment donné de se tromper. Et ils risquent à un moment donné de faire des erreurs, même si les acquis sont solides. Mais quand il faudra voir plus loin que le bout de son nez, quand il y aura d'autres questions, si on reste éloigné de la parole d'Allah, la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on risque de se tromper. Il est important, il est essentiel que chaque croyant garde un contact permanent avec les wahyens, la parole d'Allah, la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais des assemblées de tafsir, de hadith, ou par le biais de la fréquentation des savants, on pose des questions, que veut dire tel verset, et ainsi de suite, ou par la lecture, ou idéalement, al-jam'a, le fait de joindre les trois en même temps. Mais qu'une personne reste chez son musalla, son sajjada, son tapis de prière, et qu'il fait ses a'mal, ses bonnes œuvres, sans qu'il y ait un lien, sans qu'il se ressource auprès des révélations, ça, la personne risque de se tromper à un moment donné. Et c'est là un ordre d'Allah Azza wa Jal, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Le reproche qui est fait à ceux qui ne méditent pas sur le Coran. Méditer, c'est réfléchir sur le sens. Essayer de comprendre, comprendre l'enseignement pour mettre en pratique. C'était la qualité principale des Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Lorsqu'ils mémorisaient divers versets, ils s'efforçaient de comprendre et de mettre en pratique, et ensuite ils passaient aux 10 autres versets. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne cette compréhension correcte du dunya et du akhira, et qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de rester accroché à Kalamullah et à Kalamur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. 25 minutes, on a encore 5 minutes, Inch'Allah, 10 minutes. Après cette introduction sur l'importance des majlis où on apprend le Coran, où on apprend la Sunna, on revient un petit peu sur la Surah Abasa wa Tawalla, qu'on avait, il me semble, commencé au mois de Rajab, au mois de Sha'ban, et donc il y a eu une interruption de Ramadan comme prévu. Alors, on rêvait de terminer juz amma avant le Ramadan, vous avez vu qu'on n'a pas terminé, et qu'on est encore dans Abasa wa Tawalla. On reprend ce soir, Inch'Allah, théoriquement vendredi prochain, on ne fera pas trop grave. Il y aura, Inch'Allah, les responsables pour le Hajj qui arrivent, Inch'Allah, dans une semaine. Donc on sera pris avec les visas, tout cet enchaînement de démarches pour que, Inch'Allah, il y a au moins combien de personnes qui ont fait le Hajj de la Réunion, Inch'Allah, 80, 50, 50, 50, ça fait, Inch'Allah, 150 et 80. Je suis pas très fort en maths, à peu près 230 personnes officiellement ici. Et à peu près 420 personnes des îles Mayotte, Inch'Allah. Allah facilite pour le Hajj de chaque personne. Donc, là, vendredi prochain, théoriquement, on sera pris avec ces démarches pour pouvoir, Inch'Allah, reprendre le vendredi d'ensuite. Remoumen, ce que l'avait expliqué durant le mois de Sha'ban concernant Abasa wa Tawalla, juste resitué, le prophète alayhi salatu wa salam était en compagnie de Zu'ama de Quraysh, de personnes, de notables de la tribu des Quraysh qui n'avaient pas encore accepté l'islam. Le prophète sallam les invitait vers l'unicité d'Allah, vers le tawhid. Et à ce moment, il y a Anja'ahul A'ma, il y a une personne aveugle qui voulait poser des questions au prophète alayhi salatu wassalam, des précisions concernant le dîn. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a préféré rester auprès de ces notables. Pas parce qu'il voulait quelque chose avec eux, la hawla wa la quwwata illa billah. Raja hidayatihim. Notre prophète avait espoir que ces gens-là acceptent le dîn d'Allah. Parce que lorsqu'un chef de tribu accepte le tawhid, accepte la religion, il y a beaucoup de gens qui vont suivre. Et donc Allah Rabbul Izzah, et là c'est une leçon d'humanisme, une leçon de fraternité, enfin, pardon, d'égalité, à force d'entendre ces mots qui n'ont parfois plus de sens, on finit par les mélanger et on est excusé. Une leçon d'égalité, l'égalité, le adl pour Allah Azza wa Jal. Pour Allah, à travers le verset وَمَا يُدْرِيكَ alors si on retrouve عَبَسَ وَتَوَلَّ عَنْجَاهُ الْأَعْمَى le troisième وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّ qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ainsi ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Et à travers ce verset, on a vu les tafsirs qui dit que pour Allah Azza wa Jal, certainement cette personne-là avait plus de valeur que ces gens qui parfois s'enflent d'orgueil ou autre chose. On comprend que l'être humain, il peut se dire que entre trois chefs de tribu ou trois personnes très riches, vaut mieux rester avec eux que cette personne âgée ou qui est malade, qui était aveugle, donc qui n'a pas un réel poids dans la société, parce que de nos jours, les gens pèsent dans la société en fonction de leur poids. Mais pour Allah Azza wa Jal, cet homme était sincère. Il aurait fallu l'écouter. Et c'est là une leçon pour l'ensemble de la Ummah. On a expliqué que cet événement était voulu par Allah Azza wa Jal. La décision que le prophète alayhi salatu wassalam a pris à ce moment a été voulue par Allah afin que la Ummah comprenne comment comprendre le dunya et comprendre le dîn, comment comprendre la valeur des gens. De même que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait été atteint de sihr, de sorcellerie, c'était également une leçon pour la Ummah pour que al-mu'awwidhatayn, les versets de protection soient révélés et que ce soit là une leçon pour toute la Ummah, comment se protéger et se guérir contre les mauvaises choses. On avait expliqué également, d'une manière globale, troisièmement, cet événement Et une preuve de plus, on n'a pas besoin de preuve, mais une preuve de plus que le Coran est la révélation d'Allah Azza wa Jal. Qui se souvient pourquoi on avait avancé cet argument? Oui?
Oui. Il a cherché plusieurs façons à détourner le Coran, mais il n'avait pas réussi. Il s'est retourné contre lui.
Ça, c'est une réponse qui n'est pas la note, mais qui est une thèse qu'on avait développée. Ce qu'on voulait entendre, c'est que, imaginez, vous avez compris là. Maintenant, c'est moi qui complète. Imaginez, et vous allez me dire si c'était ce que vous pensez. Ça aussi, je l'avais cité, d'Aïda Sama avant. Ce que je voulais entendre, c'est que si le prophète alayhi salat wa salam, imaginez, si quelqu'un dit que le Coran a été écrit par le prophète, pourquoi est-ce qu'il mettrait en avant des reproches? Pourquoi est-ce qu'il mettrait en avant pour la Oumma une attitude, une décision qu'il a prise et qui n'a pas été approuvée par Allah? Ce qui prouve bien que ça vient d'Allah. C'est d'une certaine façon une reproche qui lui est faite, mais avec beaucoup de rahma. Et là, on va voir quand on va rentrer vraiment dans le tafsir du verset. Allah Azza wa Jal fait une certaine reproche au prophète alayhi salatu wa salam pour que ce soit une leçon pour l'humanité. Et c'est là encore une preuve que le Coran est la révélation d'Allah. Si c'était le prophète qui l'avait écrit, il n'aurait pas mis en avant cette pseudo-erreur, en guillemets, d'accord? Cette attitude qui n'était pas celle qui était souhaitée par Allah Azza wa Jal. Donc, la vie abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma. On avait expliqué le contexte, on avait expliqué l'attitude de ces gens et l'attitude de cette personne. Wa'amma manja akayasa. Quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. On avait expliqué la qualité de la personne qui va également donc à la recherche de la vérité. Et là, on s'était arrêté, il me semble, c'était le 20 août. Non, c'est la semaine dernière. C'est ce qui était prévu la semaine dernière, qu'on n'avait pas pu faire. C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal, après avoir expliqué les circonstances donc, des révélations, pourquoi est-ce qu'on commence par Abasa wa Tawalla, ces versets font référence à quel événement. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Kalla innaha tadhkira. Alors, il faut trouver la traduction exacte. Subhanallah, vraiment, ceci est un rappel. Et ça rejoint un petit peu l'introduction, que le Coran reste un rappel pour le croyant, quelle que soit sa situation, quel que soit son niveau spirituel, quel que soit le nombre d'années qu'on a déjà passé dans l'islam, qu'on soit né musulman, qu'on a accepté l'islam au cours de notre vie, que j'ai 2 années d'islam dans mon CV, ou que j'ai 65 ans d'islam dans ma vie, alhamdulillah. Ce Coran reste un rappel. Et il est nécessaire toujours de s'en référer. Il est toujours nécessaire de revenir vers ce rappel. Kalla innaha tadhkira, faman sha'a dhakara. Quiconque veut donc s'en rappelle. Et ensuite, ça c'était je pense les derniers cours durant le mois de Sha'ban, Allah Azza wa Jal donne une description de ce livre du Coran fi suhuf mukarrama, consigné dans des feuilles honorées, bi'aydi safara, entre les mains d'ambassadeurs, c'est-à-dire des malaïka, kiramim barara, noble, obéissant. Et on s'était arrêté exactement à ce point. Et avec ces descriptions, on voit comment Allah Azza wa Jal considère le Coran, quelle est la place, le makan du Coran, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal va décrire ce livre comme étant un livre protégé qui est transporté par des anges pieux qui sont purs, qui sont nobles, qui sont innocents. Et nous devons comprendre que vraiment ce Coran c'est la parole d'Allah avant tout, et qu'il a été transmis de façon la plus noble au meilleur des hommes à notre prophète alayhi salatu wassalam. Et après ce cycle qui est le plus beau des cycles, il a la garantie de protection d'Allah Azza wa Jal. Wa inna lahu la hafidhun. Maintenant, celui qui est intelligent, il réalise que c'est un tadhkira. Faman sha'a dhakara. Il réalise qu'on doit faire un pas via ce Coran, on doit s'en référer et on doit prendre considération de ce Coran. Il y a quelques jours en cours, d'introduction. Je m'avais expliqué aux jeunes lycéens le fameux hadith Jibril. Ah, ça, il faut un an pour expliquer les six piliers de la foi. On avait posé une question aux élèves pour voir un petit peu quelle est la conception du aqidah et est-ce qu'ils réalisent que la croyance est plus importante que l'action. J'ai demandé aux élèves, faites-moi la relation entre chaque branche de la foi et les a'mal. Bon, pour certains c'est évident, pour d'autres c'est moins évident. Je dis que pour iman bil kutub, pourquoi est-ce que le iman bil kutub, le fait de croire sur le livre, c'est extrêmement productif pour ta foi et pour l'accomplissement des bonnes œuvres? Il y a eu pas mal d'idées, mais c'était pas correct. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que quand nous voyons croire au livre, qu'Allah Azza wa Jalla révèle les Torah, Zabur, Injil, Suhuf, Ibrahim, Moussa, d'accord? Mais réaliser que ces livres-là, certes, ont été révélés par Allah, mais ils n'ont jamais eu la garantie de protection d'Allah Azza wa Jalla. Et que parmi ces livres, ces kutub, ces suhuf, le seul livre qui a été privilégié, qui a été protégé par Allah Azza wa Jalla, c'est le Coran. De cette façon, quand tu étudies la foi sur les livres et tout ce qui vient avec, mais même si c'est une compréhension basique, c'est ce qui est obligatoire, une compréhension basique, tu réalises que ce Coran, il est exceptionnel et extraordinaire. Et du coup, quand tu réalises le makana, la place de ce livre, qui est la parole d'Allah, et là c'est un autre chapitre, comprendre que le Coran est la kalamullah, la parole d'Allah, ça te fait prendre en considération que ce livre-là, il est extraordinaire. Le fait de l'avoir entre nos mains, c'est un ni'ma de la part d'Allah. Et il est de mon devoir de croyant d'avoir une relation directe et régulière avec ce Coran, tilawatan, lecture, compréhension, pour pouvoir le mettre en pratique. C'est une source de motivation. Il y a peut-être des gens qui mémorisent, il y a peut-être des gens qui lisent d'une façon subtile, extraordinaire, mais prennent-ils vraiment considération de ce qu'ils ont de leur cœur ou de ce qu'ils ont de leur kutub, de leur suhuf, de leur masahif, de leur livre? Quand tu comprends iman bil kutub, et là c'est vraiment une compréhension très basique, tu prends en considération de l'importance de ce livre et de la nécessité que nous avons, nous croyants, de rester attachés. Qu'Allah Azza wa Jalla t'offie de comprendre ces quelques paroles. Et donc la prochaine fois qu'on reprend le tafsir, certainement sera dans 2 semaines, on va voir le verset 17, قُتِ لَا الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ. On va s'efforcer de compléter عَوَسَ وَتَوَلَّا إِنْشَاءَ au maximum en 2 séances. On va t'offrir qu'il l'abla. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سَاكُمْ خَيْرٌ.